ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec André Husson. Vous êtes géographe de formation. Vous êtes, en fait, je vous ai demandé de venir pour présenter l'association ou le groupe CVX et Welcome. Vous allez bien sûr nous le dire, mais vous êtes au départ observateur de la Terre au CNES, c'est ça, des études lyonnais.
Lyonnais d'origine, exactement. C'est là, comme je dis souvent, c'est là où j'ai joué aux billes.
Et où vous avez fait du patin à roulettes. Mais pas que ça, puisque vous êtes allé ensuite au lycée Ampère et puis l'université. Là, plutôt un premier dépaysement pour Strasbourg.
Où j'ai passé ma thèse avec le CNES. CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
Mais vous n'avez pas observé surtout le ciel, vous avez observé la Terre.
Exactement, oui. Que ce soit pour les applications agricoles ou les risques naturels ou la géologie.
Et le pourquoi du comment, une recherche d'une certaine rationalité.
Et surtout se rendre compte que la Terre est fragile, déjà à l'époque, dans les années 70, et que donc on n'est pas propriétaire de cette Terre, mais qu'on est simplement locataire de cette Terre.
Laudate aussi, avant l'heure.
On peut le dire, mais enfin discrètement quand même.
La fragilité aussi des êtres humains qui vivent sur cette Terre. Et certains sont dans une certaine angoisse où il y a de la guerre. Et donc, il y en a certains qui souhaitent venir chez nous. Ce sont des migrants.
Tout à fait. Des migrants. Et avant d'être acceptés dans les pays où ils demandent un asile, ils sont ce qu'on appelle demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'ils ont un récépissé de la préfecture qui leur permet de rester en France légalement. Mais ils entament des démarches longues, souvent trop longues, très longues, en attendant que leur statut soit décidé par les autorités françaises.
Alors, vous êtes de famille chrétienne, pratiquante, mais aussi dans votre parcours par les scouts, puis par la rencontre des jésuites, vous avez une foi, des convictions. Alors, nous allons peut-être ou sûrement parler du bon samaritain avec toutes les ambivalences, tous les problèmes que cela peut poser de préjugés envers ces hébergés qui s'incrustent ou envers ces fraudeurs ou en tout cas tout ce que on peut se poser, même en étant charitable. Vous êtes venu nous parler de cela?
Oui, et en fait, j'ai envie d'insister sur le fait qu'on me dit souvent, mais pourquoi tu t'engages dans une telle démarche d'accueil des demandeurs d'asile alors que c'est au pouvoir public de le faire? Alors j'ai envie de dire que au-delà de Matthieu 25, j'étais nu, tu m'as habillé, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'étais étranger, tu m'as accueilli. J'ai été touché il y a quelques années par l'appel de Dieu à Abraham, va, quitte ton pays. Et pour moi, je l'ai traduit par quitte tes pantoufles, quitte ton indifférence.
Mais si on accueille beaucoup trop ou beaucoup de migrants ou de demandeurs d'asile, cela va faire un appel d'air. Nous sommes déjà dans la politique ou dans une représentation du monde et de la Terre qu'il faut analyser.
Il faut l'analyser et c'est vrai qu'on peut parler de politique, mais surtout si on est chrétien, je pense qu'on ne peut pas mettre sous le boisseau l'Évangile. Et les pages entières d'Évangile nous disent « Attention, respectez le voisin, respectez le prochain et accueillez-le. » Matthieu 25.
Oui, en même temps, vous allez nous dire qu'il faut beaucoup d'humilité pour ne pas être trop condescendant parce qu'un certain nombre de pauvres le sont peut-être à cause de raisons économiques, de géopolitiques.
Je crois que c'est une des difficultés de l'accueil par les familles de ces demandeurs d'asile, c'est de laisser le demandeur d'asile autonome. C'est lui qui est responsable de son avenir, ce n'est pas nous, famille d'accueil, ce n'est pas moi, responsable de Welcome. Si on fait trop de choses pour le demandeur d'asile, on va l'étouffer et le rendre complètement dépendant. Et ce n'est pas du tout l'objectif de Welcome. L'objectif de Welcome, c'est d'aider le demandeur d'asile à rebondir pour préparer son avenir, on espère, il espère, en France.
Avec des règles précises pour l'hébergement des personnes pour un temps limité. Alors, plutôt des hommes que des femmes, plutôt oui. des majeurs. Il n'y a pas de ce qu'on appelle les mineurs isolés.
Non, c'est vrai que dans la charte de Welcome, il est bien précisé qu'on n'accueille que des demandeurs d'asile majeurs, isolés, et j'allais dire qu'ils dorment dans la rue. C'est pas tout à fait exact. Parce
des
que
squats.
Rares, dans les squats, c'est ça, ou chez un copain au fond d'un couloir. Mais ce sont des personnes qui ont besoin de trouver un toit et surtout de trouver une famille qui les écoute.
Et ce n'est pas au gouvernement de s'occuper des familles sans argent ou démunies?
Et si, c'est au gouvernement. Il y a même le texte des lois qui précise que le gouvernement, les pouvoirs publics, doivent accueillir et héberger les demandeurs d'asile. En fait, aujourd'hui, le nombre de places est quasiment à moitié de ce qui serait nécessaire. D'où l'importance d'accueillir ces personnes qui ont vécu des choses qui parfois nous bouleversent.
Oui, chacun peut exprimer son parcours. Et vous avez mis sur le site que l'on peut revoir lors du podcast qu'il y a des accueils formidables parce qu'il y a un enrichissement mutuel par la culture, par le repas. Et là, c'est votre épouse Marie-Cécile qui apprend comment faire un bon repas.
Enfin, qui apprend, qui regarde, j'allais dire, qui regarde un demandeur d'asile que nous avons accueilli, qui était d'Afghanistan, et qui, à sa demande, pour nous faire plaisir, et je pense aussi parce qu'il était heureux de le faire, nous a préparé un repas magnifique, très beau et très bon.
Vous l'avez hébergé un mois.
Voilà.
Pas plus.
Non, parce qu'en fait, c'est la règle de Welcome, c'est que chaque famille d'accueil héberge un demandeur d'asile pour un mois, puis après, ce demandeur d'asile passe chez une autre famille pendant un mois, puis une troisième famille, le tout pendant 6 à 7 mois. Le but étant que le demandeur d'asile puisse d'abord se déstresser. On est toujours surpris les premiers mois que le demandeur d'asile est normal, il a mal à l'estomac, et puis petit à petit, en 2-3 mois, ce qui est ça qui est fantastique, on le voit aller beaucoup mieux. Ce qui ne veut pas dire que tout est rose. Sourire, partager, et puis l'empathie venant, la confiance venant, on arrive à pouvoir échanger sur des choses très intéressante, et pour lui, et pour nous.
Au départ, il ne parle pas français, donc il faut qu'il passe par des cours. Alors on parle un petit peu de, on va dire, le pidgin, non? Pour ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne.
Oui, c'est ça.
Bien,
oui.
L'anglais, un anglais avec quelques mots, parce qu'ils sont passés par toute une série de pays différents.
Tout à fait. Et mais bon, il y a aussi quand même des Africains de Sub-Sahara, comme de Congo ou de Guinée, qui parlent français. Mais c'est vrai qu'une des priorités que l'on propose aux demandeurs d'asile, c'est de devenir complètement, de pouvoir parler français sans aucun problème, parce que le but, c'est quand même qu'ils s'intègrent à la société française. Donc, il faut qu'ils parlent français.
Des Afghans, des Syriens, des Érythréens.
Mais ce que je trouve magnifique, c'est que certaines familles acceptent d'héberger, d'accueillir chez eux, des gens qui parlent des langues un petit peu compliquées. Le Dari, par exemple, une langue d'Afghanistan, il n'y a pas beaucoup de Toulousains qui parlent Dari. Mais malgré ça, il y a des familles qui accueillent. Par le regard, par le geste.
Ces personnes ne sont absolument pas analphabètes.
Il y a de tout. Il y a aussi bien des analphabètes, donc des gens qui n'ont jamais, des demandeurs d'asile qui n'ont jamais été à l'école. Et à côté de ça, il y a des ingénieurs, il y a des avocats, il y a des professeurs. C'est très varié.
Alors nous allons voir ce qui vous motive du point de vue religieux, mais nous allons voir aussi... Alors bien sûr, les difficultés et puis les questions positives de cette association Welcome. Mais vous, André, vous nous avez apporté un chant, celui de Jacques Brel, qui vous tient particulièrement à cœur.
C'est pas Jacques Brel, c'est Bourvil.
Pardon. C'est Bourvil. Non, excusez-moi. Parce qu'il y avait plusieurs, possibilités d'aller chercher sur YouTube. Et puis on dit non, mais c'est celle de...
Non, je préfère, c'est vrai, personnellement celle de Bourvil, parce qu'en fait c'est lui l'auteur. Et puis c'est vrai que c'est la chanson qui prône la tendresse, et je trouve que chanter par Bourvil, la tendresse, et avec l'humour et le rire de Bourvil, je trouve que c'est un mélange tout à fait sympathique, partant du principe que, pour moi, la tendresse et le rire sont vraiment deux moteurs qui permettent de faire tourner le monde dans le bon sens.
Et j'en profite pour signaler ce psaume 27. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Il y a ce qui est proposé, mais il y a aussi la demande de ces angoisses, de ces solitudes. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints, vers toi, Elohim.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et André Husson, vous êtes CVX et vous venez nous présenter Welcome pour l'accueil des migrants spécialement à Toulouse. Alors, CVX, vous le dites pour ceux qui ne sont pas habitués à cette chaîne et qui
CVX, c'est Communauté Vie Chrétienne. En fait, c'est une communauté de laïcs qui essaye, par des petites réunions tous les mois à peu près, hein, de témoigner un petit peu comment ils arrivent, ils essayent de mettre le Christ au quotidien, au centre de leur vie quotidienne.
D'inspiration ignatienne, c'est-à-dire des jésuites.
Tout à fait. Mais idem, je n'ai pas été assez clair, Welcome, ça a été fondé par les jésuites. En fait, le vrai nom, c'est JRS Welcome, Jesuit Refugees Service.
D'où le site qui apparaît sur, sur le podcast de Radio Présence. Et alors, vous dites, il n'y a pas de bureau, mais c'est un réseau. Et au départ, vous étiez quatre, dont notre ami Martin Pochon, dont nous avons déjà parlé, qui a déjà parlé sur ces ondes, plus deux autres personnes, pour dire il y a cette initiative de charité ou de solidarité à Paris, et nous allons l'implanter, l'instaurer sur la place de Toulouse et de sa région.
Tout à fait.
Puisque 6 familles par demandeurs d'asile, ça veut dire un certain nombre de familles qui sont chrétiennes ou pas et qui hébergent des hommes de toute
origine,
origine
culturelle, sociale ou géographique.
Oui.
C'est vrai que dans le cas de Welcome, chaque famille accueille, comme on le disait tout à l'heure, un mois le demandeur d'asile, ce qui veut dire que pour accueillir un demandeur d'asile, comme on les accueille pendant 6 ou 7 mois, il faut 6 ou 7 familles. Actuellement, sur Toulouse, sur la Grande Toulouse, hein, il y a à peu près 120 ou 130 familles, chrétiennes ou pas chrétiennes, jeunes ou moins jeunes, avec enfants ou sans enfants, qui accueillent des demandeurs d'asile, sachant que cet accueil est complètement ouvert. On accueille aussi bien des gens de niveau social différent, de cultures différentes, de religions différentes.
Et en même temps, vous êtes aussi en lien avec ceux qui sont passés par là, il y a quelque temps, et qui peuvent témoigner de leur de la chance qu'elles ont eue, mais aussi peut-être certains que vous ne voyez plus, qui sont partis ailleurs.
C'est vrai que, comme partout, hein, y a des gens avec qui on a plus d'empathie que d'autres, mais très souvent, j'explique aux demandeurs d'asile que ce n'est pas parce qu'ils ont fini leur temps d'accueil à Welcome qu'ils quittent le réseau Welcome. On revoit encore 5-6 ans après des demandeurs d'asile qu'on a pu accueillir ici ou là, et à l'occasion d'une fête, d'un anniversaire, de n'importe quoi, même sans raison, on peut partager un repas, prendre un café ensemble, faire une balade, monter voir la neige pour les gens qui n'ont jamais vu la neige. Enfin, il y a plein d'activités que l'on peut faire avec les demandeurs d'asile.
Au départ, c'est déjà que la langue et puis se situer dans l'espace, dans la géographie, dans le métro. Et
comme... Tout à fait. Sachant que je suis toujours étonné de la facilité avec laquelle les demandeurs d'asile apprennent le réseau de bus et de tram et de métro toulousain, à la limite, bien mieux que moi.
Oui, parce qu'ils sont passés par des épreuves importantes.
Tout à
Alors,
fait.
Vous évoquiez tout à l'heure votre éducation et votre trajectoire professionnelle comme observateur de la Terre au CNES, mais il y a aussi le moment du changement de regard avec ces exercices ignatiens. Ma foi, j'y crois. Et on ne peut pas ne pas évoquer la parabole du bon samaritain et entre autres ce texte que le pape François nous a donné il y a quelque temps.
Oui. Pendant plusieurs pages, il explique la parabole du bon samaritain, en fait, hein, sachant que le bon samaritain s'intéresse pas à un copain, mais à un étranger. Parce que la personne qui a été attaquée par les brigands n'est pas
juive.
Et donc, pour moi, c'est important de voir que dans cette parabole, Jésus explique et dit et montre qu'il faut s'intéresser à tout le monde, pas uniquement aux petits copains de la rue d'en face, mais à notre prochain qui peut venir du monde complètement extérieur, du monde entier.
Oui, mais le prêtre, il avait son service. Il devait vite aller au temple et il ne pouvait pas passer du temps avec celui qui était sur le bord du chemin, blessé. Et l'autre personne, il savait qu'il ne pouvait pas toucher le sang, il aurait été impur. Ils avaient de très bonnes raisons de passer leur chemin. Et Jésus rompt cette logique, on va dire, de la tradition.
Et vous ne pensez pas qu'Abraham était bien chez lui et que Jésus lui dit, le Seigneur lui dit, quitte ton pays.
Et Moïse qui ne pouvait pas se faire comprendre.
Exactement. Donc, je crois que c'est important de se dire que c'est vrai qu'on est dérangé, c'est pas toujours facile, par l'écoute, le regard et l'accueil qu'on peut apporter à l'autre. C'est vrai que j'insiste parce qu'en fait, je voudrais dire aussi que c'est pas toujours facile d'accueillir, qu'il y a des freins à l'accueil. Je ne parle pas des peurs véhiculées par des discours ambiants, voire nauséabonds, hein, du style « les migrants viennent prendre notre travail » ou « profiter des aides sociales ». Mais je pense qu'il est important d'oser la rencontre en appréhendant nos différences comme une source de richesse et en acceptant que notre perception des choses soit remise en cause, en fait, hein.
Pour connaître l'autre, osons la rencontre. Il y a aussi une marche. L'année dernière, non, mais oui. Il y en aura encore une cette année,
j'espère.
En octobre. Oui. Elle est difficile à mettre en route parce que c'est au-delà des convictions des uns et des autres et acceptée par la mairie, comme il y a 3 ans, acceptée aussi par toute une série d'associations qui regroupent des personnes pour rencontrer l'autre. Il faut accepter de gommer tous les préjugés ou toutes les peurs qui font que, bien souvent, on n'ose pas, on est paralysé.
Exactement. C'est vrai que, je pense, quand on accueille, on vit un petit peu la difficulté à comprendre l'autre, qui a ses codes, qui a ses façons de vivre. Et il faut, je pense, que vous venez de dire, dépasser les malentendus ou les quiproquos, voir les difficultés. Je pense en particulier, par exemple, quand on accueille des demandeurs d'asile, le non-respect des horaires, ou parfois des discussions sur la place de la femme, ou des flous, voire des incohérences dans leur histoire. Mais je pense qu'en se dépouillant un peu soi-même, on peut accepter l'étranger tel qu'il est, et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Il faut faut l'accepter tel qu'il est.
Et parfois, un aveu d'impuissance, mais ça, on ne le dira pas à l'autre, ou peut-être des moments de colère ou de mauvaise humeur.
Tout à fait, oui.
Et, alors,
mais ça nous apprend, excusez-moi, ça nous apprend aussi l'humilité. Je pense qu'il est important, quand on accueille, de se dire qu'on n'est pas tout puissant. On participe un tout petit peu à mettre la tête hors de l'eau à un demandeur d'asile, qui, lui, de son côté, nous fait prendre compte des choses que on ne s'en rendait pas très bien compte. Par exemple, moi, je me rends compte, enfin, je me dis, quand il y a quelque chose qui ne tourne pas comme je voudrais, ben, je râle, je rouspète, voilà. Alors que ces gens qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, jamais ne se plaignent.
Jamais, mais jamais, le destin, jamais. Ils sont laissés comme ça un peu à la volonté de Dieu, ou bien une grande confiance dans la vie, malgré tout, malgré cela.
On a été très étonnés, plusieurs d'entre nous, par la force de la foi, que soit foi musulmane, foi catholique, qui a fait tenir debout des demandeurs d'asile.
Et en même temps, peut-être pour nous, la prière, comme le moment de ressourcement indispensable pour avoir un contact dans la vérité avec l'autre.
C'est ce que j'ai dit, la prière est absolument indispensable. Parce que, j'insiste, on n'est pas tout puissant, on apprend l'humilité, et derrière nous, ou en dessus de nous, il y a quelqu'un qui est là et qui nous aide sacrément.
Par ton nom, Dieu, tu m'as sauvé, mais on sait aussi qu'on peut rendre grâce car il a renvoyé les riches les mains vides et il relève le pauvre.
Voilà, exactement.
C'est le Magnificat de Marie.
Qui est une prière magnifique parce que justement il y a les deux aspects, le Magnificat, rendre grâce, remercier, et puis aussi quelque chose qui est plus pratique, plus concret, favoriser l'écoute des pauvres, le regard qu'on peut avoir sur les pauvres, quitte peut-être à être parfois un peu rude avec les gens qui ont tout, qui ont beaucoup de choses.
Alors on relira Fratelli Tutti, et puis vous nous avez apporté un beau poème qui sera notre pensée pour à bientôt avec d'autres.
D'accord. Il s'agit d'un poème ou d'une prière qui a été rédigée par un évêque du Vietnam. Alors je me permets de le lire, hein. Dieu avait besoin d'un père pour son peuple. Il choisit un vieillard. Alors, Abraham se leva. Il avait besoin d'un porte-parole. Il choisit un timide qui bégayait. Alors, Moïse se leva.
Il a besoin d'un roc pour poser l'édifice.
Il choisit un renégat.
Alors, Pierre se leva.
Il avait besoin d'un visage pour dire aux hommes son amour. Il choisit une prostituée. Ce fut Marie de Magdala.
Il avait besoin d'un témoin pour crier son message.
Il choisit un persécuteur.
Ce fut Paul de Tarse.
Il avait besoin de quelqu'un pour que son peuple se rassemble et qu'il aille vers les autres. Il t'a choisi. Alors, même si tu trembles, pourquoi ne pas te lever ?
C'est donc l'association Welcome. Vous nous rappelez le site sur Toulouse. Et puis, on attend des bonnes volontés, mais avec un minimum de confort. Hein. Il est hors de question qu'on reçoive quelqu'un sur le canapé du salon.
Tout à fait, oui. Non, il faut que les familles puissent proposer une chambre isolée pour que le demandeur d'asile soit chez lui, qu'il ait un terrain chez lui.
Donc ça, c'est pour Welcome Toulouse, mais il y a un site national et vous nous en reparlerez probablement lorsqu'il y aura cette marche Osons la rencontre.
Tout à fait. Et puis, on peut toujours regarder sur Internet, vous tapez JRS Toulouse et donc vous tomberez sur le site qui vous donnera pas mal d'informations et sur l'association et sur les activités qu'on peut avoir.
JRS comme
Jésuites Réfugiés Service.
Merci à Christophe pour la technique.